Comment faire la différence entre le vrai et le faux au sujet de la transmission de connaissances dites spirituelles? Pour tenter de faire la différence entre le vrai et le faux, en ce qui concerne la spiritualité, des connaissances spirituelles, j'évoquais dans la vidéo précédente qu'il y a au moins encore une troisième façon de répondre à cette problématique, de tenter de la résoudre. Elle consiste tout simplement à rejeter tous les livres de spiritualité ou de connaissances spirituelles en bloc. Voilà comment on peut faire la différence entre le vrai et le faux. De toute façon, tout ça, c'est faux. Ce sont des illusions, des idioties, que sais-je. Et ça peut aller jusqu'au déni de l'existence du spirituel dans l'univers. En tous les cas, cette attitude ou cette conception peut au moins mener à affirmer qu'il n'est pas possible d'étudier les phénomènes spirituels, les êtres spirituels, à partir d'une démarche de connaissance scientifique. Et avec une attitude de ce type, au moins il n'y aurait pas de risque de s'imprégner de pensées parasitaires problématiques qui sont liées à différentes formes de spiritualité, entre guillemets. Il n'y aurait pas ce danger-là. D'autant plus que, avec, disons, à partir de cette vision des choses, hein, la spiritualité, elle est associée à la perte de tout sens critique, à la perte de liberté aussi, à la soumission, à la foi aveugle en une autorité. Voilà justement ce qui peut être critiqué dans ces approches ou dans ces connaissances spirituelles. Et puis la spiritualité, dans le fond, est associée à du grand n'importe quoi. C'est une grande soupe, c'est irrationnel. Ça peut mener jusqu'à la folie. Oui, en rejetant en bloc tous les livres de spiritualité ou de connaissances spirituelles, on évite ce type de danger. Dans un certain sens, absolument, c'est comme ça que ça se passe. Mais l'adepte de cette approche, de cette attitude, de cette méthode, entre guillemets, croit s'abstenir, hein, de manger à des râteliers dangereux, d'accord, mais il va quand même manger à un autre râtelier, qu'il en soit conscient ou pas, et il admet d'autres dogmes auxquels il fait acte de foi. Ce sont les dogmes du matérialisme. Le matérialisme, c'est la conception selon laquelle le fondement de tout l'univers et de toute existence, c'est la matière, et uniquement la matière. Voilà déjà un premier a priori, voire un premier dogme. Autre dogme qui est admis comme étant une évidence quelque part, c'est que l'activité de l'esprit humain est issue à la base uniquement de processus biochimiques dans le cerveau qui produisent et qui déterminent entièrement le contenu des pensées des êtres humains. D'ailleurs, l'activité de l'esprit humain n'est qu'une espèce d'épiphénomène. Les processus réels sont les processus matériels qui existent dans le corps de l'être humain et dans son cerveau en particulier, d'où résulte l'activité pensante un peu comme des vagues, hein, comme des vagues qui émergent à la surface de la mer ou de l'océan. Mais le vrai réel, ce sont les processus biochimiques qui existent dans le cerveau et qui déterminent cette activité pensante. C'est assez intéressant de remarquer qu'en fait, les penseurs matérialistes, hein, c'est-à-dire qu'en fait, presque tous les penseurs, tels qu'on peut les voir s'exprimer dans nos milieux académiques, universitaires, n'ont jamais pris le temps d'observer l'activité de l'esprit humain lui-même, c'est-à-dire l'activité pensante, le penser avec ER. Ils produisent des écrits, des recherches, des théories à ce sujet. Ils en disent donc et en écrivent toutes sortes de choses, mais prendre le temps effectivement d'observer l'activité pensante elle-même, sans a priori, sans préjugés, ils ne le font pas. Ils ne le font pas notamment parce que à observer l'activité pensante est considéré comme étant impossible du point de vue de l'investigation scientifique. On ne peut jamais faire qu'observer sa propre activité pensante. Il s'agirait d'une activité qui serait uniquement subjective, et de ce fait, on ne peut pas l'objectiver, on ne peut pas en faire un objet de connaissance scientifique. Voilà donc un des dogmes majeurs qui s'exprime depuis la fin du XIXe siècle, tout le long du XXe siècle, et qui mène à empêcher, je dirais, toute investigation sérieuse dans ce domaine. Donc on s'intéresse plus à l'activité pensante de l'être humain en tant que tel, on ne fait que s'intéresser aux théories, aux modèles de processus cognitifs que l'on croit être peut-être, que l'on crée de toutes pièces, je dirais, et qui seraient les véritables centres d'intérêt pour l'homme de science. Donc, celui ou celle qui est adepte de connaissances qui exclut toute spiritualité, qui se limite uniquement au monde matériel, je viens de le dire, dans le fond, admet comme étant des vérités intangibles un certain nombre de dogmes. Je n'ai fait que donner quelques exemples ici, je n'approfondis pas, pas ces questions maintenant. Mais cette attitude crée d'autres problèmes de fond. En rejetant en bloc toute étude du spirituel, en refusant d'aborder les faits spirituels sur base d'une approche scientifique claire, transparente, rigoureuse, ce champ de l'expérience humaine est laissé d'autant plus libre pour ceux et celles qui ont des approches irrationnelles. Il peut être d'autant plus infesté de superstitions, de formes de mysticisme, également de manipulations de toutes sortes, des manipulations qui proviennent de diverses autorités ou personnalités qui veulent soumettre l'être humain sur base de connaissances spirituelles, voire de capacités de mettre en œuvre certaines forces occultes. Dans le fond, quand on y pense, dans toute démarche de connaissance, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de la connaissance du monde spirituel, voire du monde matériel, il est impossible de se prémunir de tout risque d'erreur, de tout danger. Et se soumettre à une autorité extérieure, tout avaler comme étant porteur de vérité, ou tout rejeter en bloc, ne peut jamais écarter le risque de tromperie en tant que tel. Même en lisant des ouvrages de très grande qualité sur le plan spirituel, qui sembleraient tout à fait sains et sérieux, qui font autorité, faisons l'hypothèse que les ouvrages de Rudolf Steiner soient de cette qualité, hein, c'est une hypothèse. Même en lisant et en étudiant de tels ouvrages, nous pouvons toujours nous illusionner nous-mêmes ou être illusionnés par ceux et celles qui les étudient, mais en font une interprétation fallacieuse. Il n'existe donc aucune protection, entre guillemets, aucune méthode, recette de cuisine toute faite pour se prémunir une fois pour toutes de l'erreur, y compris dans le domaine spirituel. Par contre, pour triompher petit à petit des erreurs et illusions qui surviennent inévitablement sur tout chemin de connaissance, il existe, me semble-t-il, un moyen salutaire qui est connu par ceux qui le pratiquent et que vous allez sans doute reconnaître quand je vais vous en parler dans quelques instants. Il s'agit de s'auto-éveiller constamment. Se mettre activement en quête, en recherche, dans le domaine spirituel en particulier. Ne jamais interrompre cette quête, ce cheminement. Au contraire, s'auto-éveiller toujours davantage soi-même dans l'effort intérieur et je souligne, dans l'effort intérieur. En tant que questionneur, penseur et observateur, de plus en plus actif intérieurement, devenir toujours davantage sa propre autorité intérieure. N'est-ce pas ce à quoi font référence dans un sens très profond ces paroles? Cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Dans le fond, le seul et véritable point d'appui, c'est l'activité spirituelle libre du je, ou si vous préférez, du moi, c'est-à-dire son activité pensante, son pensée le plus actif, le plus vivant. C'est la seule activité qui, lorsqu'elle est exercée avec assiduité, permet de développer, pas à pas, la capacité de discernement spirituel, ainsi que celle de maintenir sa liberté face au monde, y compris le monde suprasensible, le monde spirituel. Je voudrais vous donner un exemple tiré de la vie quotidienne, auquel j'ai déjà fait référence, c'est celle de l'étudiant en mathématiques. L'étudiant en mathématiques devient capable, en s'appuyant sur sa propre activité pensante, de faire la différence entre un enseignant qui lui raconte des carabistouilles, les carabistouilles c'est une expression bruxelloise hein, qui veut dire des âneries, et celui qui expose un contenu fondé. Ce n'est pas l'autorité extérieure de l'enseignant qui lui dicte le vrai ou le faux, mais son propre pensée, dont il est lui-même l'auteur, l'autorité pour ainsi dire. J'aimerais maintenant vous lire un extrait du livre de Rudolf Steiner, « Comment parvient-on à des connaissances des mondes supérieurs, aussi appelées l'initiation ?» Tout être humain porte aussi en son être intérieur, outre, nous l'appellerons ainsi, l'homme qu'il est tous les jours, un être humain supérieur. Cet être humain supérieur reste caché jusqu'à ce qu'on l'éveille. Et chacun est le seul à pouvoir éveiller soi-même, en soi, cet être humain supérieur. Mais aussi longtemps que cet être humain supérieur n'est pas éveillé, aussi longtemps reste aussi caché en chacun les facultés supérieures assoupies qui conduisent à des connaissances suprasensibles. Dans ce livre de Rudolf Steiner, il est question de diverses facultés de connaissance des mondes supérieurs qui sommeillent en tout être humain. Rudolf Steiner y décrit notamment des facultés plus avancées, plus développées encore, que celles auxquelles j'ai fait allusion jusqu'ici. Je veux dire les facultés d'observation, de pensée logique, de discernement notamment. Les facultés supérieures que Rudolf Steiner décrit s'appuient toutefois sur le développement du sens de l'observation, du penser, du discernement, qu'il s'agit en tout premier lieu d'auto-éveiller pour être ensuite en mesure de poursuivre le chemin de connaissance dans les mondes spirituels supérieurs. J'ai beaucoup mis l'accent sur cet auto-éveil que seul chacun et chacune peut réaliser en tant qu'individualité spirituelle libre. Mais l'auto-éveil n'exclut pas que des êtres humains puissent s'entraider, collaborer entre eux, s'auto-éveiller, par exemple, au contact de l'activité spirituelle auto-éveillée d'autrui. si je suis en contact avec des êtres humains qui s'auto-éveillent, si je puis dire, je vais moi-même être stimulé dans cet auto-éveil. Je suis le seul ou la seule à pouvoir le mettre en œuvre, mais ce contact avec autrui peut créer des conditions favorables, dirais-je. Voilà, je fais ici référence à un cycle de conférences de Rudolf Steiner qui s'intitule « Éveil au contact du jeu d'autrui », qui présuppose en principe d'avoir déjà étudié des ouvrages de base d'anthroposophie, mais que je recommande auprès de ceux et celles qui ont peut-être déjà cette familiarité avec des concepts de base et qui voudraient travailler cette question-là plus spécifiquement. J'ai dit tout à l'heure que le seul véritable et seul point d'appui pour progresser sur le chemin de la connaissance, c'est fondamentalement l'activité spirituelle libre du « je », du « moi » de chaque être humain. Or, si je me conçois et que je me saisis moi-même comme étant un être dont l'activité spirituelle, c'est-à-dire le penser, avec R, constitue dans le fond son seul et véritable point d'appui solide, entre guillemets, dans l'univers, je sais que je ne puis donc compter sur rien d'autre que ma propre activité spirituelle pour triompher de l'erreur, pour retrouver mon chemin, pour m'orienter dans l'univers, même quand au départ je suis un peu perdu, sans repère. Et ça peut faire extrêmement peur. C'est une perspective qui peut même être carrément paniquante d'un certain point de vue. C'est parce qu'il est tellement difficile de concevoir et surtout de le pratiquer, à savoir s'appuyer sur sa seule activité spirituelle libre, c'est parce que c'est tellement effrayant, paniquant, qu'existe notamment ce besoin de s'accrocher à une autorité extérieure, à des dogmes, qu'ils soient matérialistes, spiritualistes ou tout autre encore, ou à se perdre dans un grand tout pour continuer à dormir confortablement. Peut-être que ça peut aller jusqu'à la tentation de consommer des substances psychotropes, de l'alcool, des drogues, etc. En fait, il faut vraiment beaucoup de courage pour s'engager sur un tel chemin de connaissance. Et ce chemin de connaissance, c'est notamment celui qui a été emprunté par Rudolf Steiner, dont il a témoigné et qu'il invite à expérimenter et à emprunter, malgré son caractère qui peut, a priori, s'avérer, c'est vrai, effrayant. Les écrits de Rudolf Steiner et ses conférences aussi, dont d'ailleurs l'étude constitue déjà une toute première petite partie du chemin d'initiation, hein, quoique justement à son tout premier degré, ces écrits ont été conçus et formulés de telle façon qu'ils ne soient compréhensibles, accessibles qu'à ceux et celles qui pratiquent l'auto-éveil auquel j'ai fait allusion précédemment. D'ailleurs, si on lit les ouvrages de Rudolf Steiner en étant à moitié endormi, comme lorsque nous lisons la presse quotidienne par exemple, voire lorsque nous lisons des ouvrages scientifiques même à la limite, on n'y comprend rien à ses écrits. Les textes de Rudolf Steiner sont tout simplement incompréhensibles s'il n'y a pas un auto-éveil très actif du lecteur, de la lectrice. Au contraire, si avec effort, persévérance, pugnacité, concentration, nous tentons d'en comprendre le contenu, les capacités individuelles de conception du spirituel et de pensée autonomes sont peu à peu renforcées. C'est ce que chacun et chacune peut observer si on a la patience de pratiquer suffisamment régulièrement et longtemps ce type d'études. Et ce renforcement des capacités individuelles de conception du spirituel, du concevoir le spirituel, elles ont à valeur pas seulement au niveau de la connaissance du spirituel, mais elles vont en avoir également pour la vie pratique. Elles vont aussi en avoir, bien sûr, pour ceux et celles qui veulent s'engager plus en avant dans la connaissance des mondes supérieurs. J'en reviens pour terminer à l'enjeu du courage qui est nécessaire pour s'engager sur un chemin de connaissance dont l'activité de notre individualité spirituelle est le seul et véritable point d'appui. Et j'aimerais exprimer cet enjeu à travers une image. Une image très parlante qui m'a été communiquée par une amie. Elle m'expliquait ceci. Certes, se jeter dans l'inconnu de son propre chef en s'appuyant sur soi-même fait peur. Pourtant, d'un certain point de vue, c'est ce que nous faisions déjà quand nous étions de petits enfants. Pensons par exemple à ce que nous avons fait étant tout petits, lorsque pour la première fois, nous avons osé descendre des escaliers. N'est-ce pas une opération objectivement très dangereuse? Et pourtant, nous l'avons tous et toutes réalisé, en puisant sur nos capacités intérieures. Que nous soyons descendus sur notre derrière, en nous retournant, peut-être en nous agrippant à la rampe, peu importe. Nous étions les seuls à pouvoir réaliser cet exploit. Personne ne pouvait le faire à notre place. Certes, étant petit enfant, nous avons réalisé cet exploit à partir de forces encore relativement inconscientes, instinctives, qui nous étaient données alors que nous vivions les expériences de la petite enfance. Donc il ne s'agit pas déjà de forces qui sont entièrement issues, loin de là, de notre propre noyau psychospirituel d'adulte, de notre propre noyau psychospirituel intérieur éveillé, pleinement conscient. Mais cette image transposée à la question de ce jour, comment faire la différence entre le vrai et le faux en ce qui concerne la transmission de connaissances spirituelles, en ce qui concerne des faits spirituels, des phénomènes spirituels aussi, nous invite néanmoins à prendre des risques dans le domaine des connaissances spirituelles. Être prêt à s'exposer à l'erreur et à l'illusion, donc être capable d'assumer ses peurs et ses erreurs, nous invite donc à le faire, à nous lancer à l'eau, si je puis dire, mais toutefois avec la confiance qu'il sera toujours possible d'en triompher à nouveau de ses erreurs. Si l'être humain, son jeu, le jeu de l'être humain, son noyau spirituel, cherche activement et constamment la vérité, alors il parviendra, nous parviendrons, chacun et chacune nécessairement, toujours à percer à jour nos propres illusions, à en triompher et à nous en libérer. Tel est aussi un des sens profonds de ces paroles. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre.